Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous invite à prier. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as cherchés. Nous sommes ton peuple. Tu es au milieu de nous et nous sommes dans ta maison. C'est toi qui nous accueilles dans ta maison. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà reçu de nos bouches et de nos cœurs sincères, de toute la louange que nous avons adressée à toi, au Père, et des prières. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce rappel de ton amour sublime par, Seigneur, la célébration de la Sainte Cène. Nous te remercions parce que tu veux encore continuer à nous parler, à nous rappeler ta sainte parole. Que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur, et qu'il grave ta parole dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas des auditeurs ou des lecteurs oublieux, mais plutôt ceux et celles qui mettent en pratique ta parole. Daigne, Seigneur, éloigner de nous tout ce qui est propre à nous distraire, afin que toutes nos pensées soient rendues attentives à l'écoute de ta parole, mais aussi conduites, Seigneur, à la mise en pratique de celle-ci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai qu'on ne m'a pas présenté, je crois qu'on me connaît, à moins qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas ou que je ne connais pas. MAS, c'est une abréviation, une contraction. M, c'est mon frère jumeau, Munga et As, c'est Asukul, c'est moi. On a mis ça ensemble comme notre nom d'artiste. Je m'appelle Charles Asukulu. Et alors, je suis aussi pasteur à l'église sœur de Braine-l'Alleud. Je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Je pense, si je ne m'abuse, c'est la troisième fois que je me présente parmi vous. Ça va, vous m'entendez bien? Je pense, ça va. La première fois, j'avais prêché ici. Je ne sais pas si on s'en souvient encore. Je me suis promené parmi vous là. J'avais un seau. Hein. C'était pour voir que nous avons tous été baptisés dans un même esprit, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave. La deuxième fois, l'année passée, on a chanté ici la lumière, tout ça, n'est-ce pas? J'avais prêché sur le combat de corps à corps entre la lumière et les ténèbres. Je ne sais pas si on s'en souvient encore. Ou on va me dire peut-être, comme quelqu'un a dit, « Monsieur le pasteur, merci beaucoup pour votre message. » Et le pasteur a dit, « Mais de quoi ai-je parlé ?»« Ah, je ne me souviens plus, mais c'était bon. » Aujourd'hui, nous allons, et toujours dans cette approche de Noël, de la nativité. Si on peut peut-être diminuer les aigus, hein, je sens que ça... Dans cette approche de Noël, je voudrais qu'on voit un texte que nous avons l'habitude de voir, mais peut-être qu'on va le lire d'une autre manière, non, le comprendre peut-être d'une autre manière, dans cette approche de Noël, dans cette approche où le Seigneur s'est fait notre prochain. Lisons dans l'Évangile de Luc, ou de Saint-Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Je ne sais pas s'il est affiché ou je lis. Je lis dans la version 21, second 21. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même, aussi, un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva auprès de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain matin, j'ai oublié mes lunettes, ça me fait un petit peu. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. D'autres versions disent, va et fais de même. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous pourrons faire allusion tout à l'heure à une autre parole écrite dans Exode. Ce texte, mes chers frères et sœurs, je crois, il ne nous est pas très étranger. On connaît, on dit souvent, il faut aimer ton prochain, comme toi-même. Nous connaissons cela, et qui est mon prochain? Nous avons l'habitude de dire cela, on doit faire du bien à son prochain, etc. Nous connaissons ça. Et ici, ce texte, curieusement, va nous révéler une autre réalité, celle de celui qui s'est fait notre prochain. Et qu'est-ce que c'est que le prochain? C'est qui le prochain? Ce texte de ce matin va nous montrer comment Jésus se met à rectifier certaines mauvaises compréhensions. Rectifier. Mais il met l'accent sur celui qui est le prochain. Nous voyons ici un texte qui nous présente 2 personnages. Je crois que vous avez déjà l'habitude, dis-moi, quand je viens, vous savez que j'aime aussi faire une sorte d'interaction. Hein? Donc, n'hésitez pas d'intervenir, sentez-vous libre, parce que je suis aussi enseignant, et ça me fait plaisir de pouvoir faire un échange. Nous avons 2 personnages en dialogue ici. Lesquels? Lesquels, au tout début là? Nous avons le professeur ou le docteur de la loi. Et nous avons Jésus, le docteur de la loi. Essayons de limiter un petit peu, de délimiter les contours de ce docteur de la loi. Quand on dit docteur de la loi ou professeur de la loi, on ne faut pas tout de suite là le comprendre dans la manière dont nous comprenons aujourd'hui le docteur, celui qui a un doctorat. Ce n'est pas nécessairement cela. C'était un érudit, bien entendu, comme moi. Le docteur aussi est un érudit aujourd'hui. C'était un érudit, un connaisseur, quelqu'un qui maîtrisait la loi. Et quand on dit la loi, à l'époque,
quand on parlait de la loi, il y avait des sens, plusieurs sens, tout au moins trois. La loi, d'abord, ça se comprenait au sens strict. De quoi? Des dix commandements. C'est la loi de Dieu. Mais au sens un peu plus élargi, c'était les cinq premiers livres de la Bible, donc de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Les cinq livres de Moïse, qu'on appelle aussi les Pentateuques. Les cinq livres de Moïse, c'était compris comme la loi. Par extension, et la loi comprenait aussi donc les cinq livres de Moïse, les prophètes et le livre qui est central dans la Bible, qui est au centre, les psaumes. Quand Jésus va dire, il fallait que tout ce qui est écrit à mon sujet, dans Moïse, dans les prophètes et les psaumes, il fallait que ça s'accomplisse. Donc quand on parlait de la loi, on pouvait comprendre de cette façon-là, à strictement parler des dix commandements. Par extension, on pouvait comprendre les cinq livres de Moïse, premier livre de la Bible, et par extension, c'est finalement tout l'Ancien Testament. Et nous savons bien qu'à l'époque de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, c'est finalement, quand on parle de docteur de la loi, professeur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la Bible, en général. Il connaît. Et nous avons un connaisseur qui vient auprès de quelqu'un avec un regard hautain, parce qu'il lui a posé des questions. Pourquoi? Il est écrit pour... Pour l'éprouver. Ah ouais. Donc, quand on vient éprouver quelqu'un, on a tendance à se sentir au-dessus. Donc, on le regarde de haut. Allez, il arrive là, le professeur de la loi. Alors, Jésus, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Dis-moi, si tu sais quelque chose, parce qu'on t'appelle Rabbi. Dis-moi. Alors, Jésus va se mettre à faire la première rectification. Comment est-ce que Jésus a répondu à votre avis? Il a posé une question. Ça veut dire, attention, attention, tu sais que avant qu'Abraham soit, je suis. Nous avons chanté ici qu'il existe de toute éternité. De toutes les façons, tout a été créé par moi et tu me poses à moi la question. Toi, c'est à moi à te poser des questions. Tu dois donc prendre ta place d'élève. C'est moi le professeur. Il lui pose une question. Et qui va répondre? Est-ce que c'est Jésus? Qu'est-ce qui va répondre? Parce que je vais lui poser une double question. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Parce que tu es professeur de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi que tu enseignes? Deuxième question. Comment lis-tu? Qui lis-tu? Et celui, qui est-ce qui va répondre à ces deux questions? Est-ce que c'est Jésus? C'est le professeur. Donc, quelque part, Jésus lui dit, sois à ta place, l'humilité est importante. Mes frères et sœurs, nous sommes tous élèves de Jésus-Christ. Et le mot disciple, mathètes, en grec, signifie celui qui suit quelqu'un, qui est derrière. Et nous ne serons jamais égaux à notre maître Jésus-Christ. Alors que le rabbinat ancien, quand ils entraînaient les rabbins, quand ils entraînaient leurs disciples, les disciples pouvaient être meilleurs qu'eux-mêmes. On connaît un certain Paul qui fut seul disciple de Gamaliel. Il a été beaucoup plus éminent que Gamaliel, quoique Gamaliel ait été quelqu'un de grande réputation. Mais par rapport à Jésus, nous ne serons jamais plus que le maître. C'est ainsi que Jésus va dire, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus veut dès lors nous appeler, comme il le fait avec cet homme, ce professeur de la loi, à l'humilité. Soyons humbles. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Et comment est-ce que tu lis cette loi? Qui lis-tu? Et le prof va se mettre à répondre, donc l'interrogation a changé d'orientation. C'est toi qui réponds, et il dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il est en train de prouver sa connaissance. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire quoi? Jésus va dire quoi? Tu as bien répondu. En d'autres termes, les profs vont dire 10 sur 10. Celui qui donne la cote, c'est le prof. Jésus a renversé les échelles. C'est lui le prof. Qui est ton prof aujourd'hui? Qui est mon prof? Est-ce moi le prof du Christ ou c'est le Christ qui est mon prof? C'est lui qui sanctionne. Il se met à corriger. Mais bien plus que ça, il dit quelque chose à la fin. Tu as bien répondu. Qu'est-ce qu'il dit? Va, fais cela. La praxis, la pratique, la mise en pratique. Jésus veut insister sur la mise en pratique au-delà de la connaissance. Connaître, mais il faut que ce que nous connaissons soit traduit en action, en pratique. Va, fais de même. Donc tu aimes ton Dieu de tout ça, mais aussi tu aimes ton prochain. Mais notre professeur de la loi, il me semble qu'il n'a pas encore très bien compris cette première rectification du Christ. Il va dire, mais qui est mon proche? Mais avant de dire, de voir ce que le prof a posé comme question, deuxième question, pour éprouver, revenons un petit peu à la sanction, c'est-à-dire à la note que Jésus a donnée, les 10 sur 10 là qu'il a donné. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Mais comment est-ce que Jésus lui dit qu'il a bien répondu, ce professeur de la loi? Et c'est important de nous rapporter un petit peu à l'Ancien Testament, aux 10 commandements. Quand nous lisons les 10 commandements dans Exode, au chapitre 20, nous allons voir que le premier commandement va remettre l'homme en relation avec Dieu. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pouvez le suivre dans Exode chapitre 20, à partir du verset 2 ou 3, on va jusqu'à 17. Ça met en relation qui et qui? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est ce seul Dieu. Ça met en relation entre qui et qui? Entre l'homme et Dieu. Deuxième commandement. Est-ce que quelqu'un peut rapidement lire et on va s'arrêter commandement par commandement? Chapitre 20, Exode, chapitre 20. Merci. Quelle relation entre qui et qui? Dieu et les hommes. On peut aussi dire la relation verticale. Donc les deux commandements, les deux premiers, c'est la relation verticale. Troisième.
Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent.
Oui, tu peux continuer. Oui, ça sera toujours dans le deuxième commandement. Mais juste quand même une parenthèse où il dit je bénis, je maudis, je punis de, jusqu'à quatre générations, je bénis jusqu'à mille générations. Juste une petite parenthèse. Est-ce que quand Dieu dit qu'il va punir, c'est du hasard ou il va bénir, c'est du hasard? Il fait comme ça, comme on fait ta, toi tu es béni. Papa, tu sais pas quelle chanson on fait là, les enfants font ça c'est toi qui sera maudit. Est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu peut faire suivre la malédiction jusqu'à quatre générations et la bénédiction jusqu'à mille générations? Pourquoi? C'est une parenthèse que nous ouvrons dans ce texte. Parce que tout part de l'enseignement, de la transmission Comment est-ce que je vais dire ou enseigner ce que je n'ai pas appris? C'est la même chose dans nos familles. Comment est-ce que nos enfants vont savoir parler de Dieu s'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu? Parce qu'on a tendance depuis les années 60 et un peu au-delà, où il choisira quand il sera grand, il fera ce que... Mais au moment où ils n'ont pas appris, ils ne savent rien de ce qu'ils n'ont pas appris. Quand eux aussi vont avoir des enfants, ils ne pourront pas transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu. De cette façon-là, ça peut aller jusqu'à 4 générations, parce qu'ils n'ont pas appris. La parole nous dit, enseigne ton enfant la voie qu'il doit suivre, il ne l'abandonnera pas, même quand il sera vieux. Alors, comment est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on n'a pas reçu? L'apôtre va dire, je vous transmets ce que j'ai reçu. Et l'apôtre va dire à Timothée, ce que j'ai reçu, je t'ai donné en présence des témoins. Transmets-le aussi à des hommes fidèles. C'est ainsi que la transmission va de génération en génération. Et la bénédiction suit de génération en génération. Ça va de l'enseignement, de la transmission. Donc, c'est pas du hasard. On ferme cette parenthèse. Alors, le troisième commandement, souviens-toi, verset 8. Ah non, j'ai sauté un commandement là, hein, le verset 7. Voilà. Encore quelle relation là? Verticale ou horizontale? Toujours? Verticale. On est déjà à 3 commandements. Le quatrième, verset 8 maintenant. Sous. Viens, toi. Voilà, merci beaucoup. Là, on est à 4 commandements. Encore quelle relation? On est un peu timide. Là. Quelle relation là? Verticale. Donc, on a déjà 4 commandements qui montrent la relation entre moi et Dieu, ou entre Dieu et moi, la relation vers le haut. Alors, à partir du verset 10... Honore ton père et ta mère. Quelle relation? Horizontale. Verset suivant, 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Quelle relation? Horizontale. 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Horizontale. 15. Tu ne commettras pas de vol. Horizontale. 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Horizontal. Et 17. Tu ne commettras pas... je ne vois pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Etc. Quelle relation? Horizontale. Donc, Jésus, on voit qu'il y a deux lignes, finalement. Une ligne montante et une autre qui va vers l'autre. Et Jésus dit, ah, avec ça, tu as bien répondu, maximum. Parce qu'il y a deux relations, envers Dieu et envers l'autre. Les 10 commandements, les 4 nous unissent à Dieu, et les 6 autres vers l'autre, le prochain. Ah, Jésus dit, tu as bien répondu, avec raison. Mais cet homme ici, il ne se suffit pas de ça. Il n'a pas compris la première rectification du Christ. Il va poser une deuxième question. On revient maintenant à Luc. Il va dire, et qui est mon prochain? En d'autres termes, cet homme, au lieu de dire, oui, j'ai compris, parce que je viens de te dire, et tu me dis que j'ai bien répondu, et tu me dis, va et fais cela. Alors, ça suffit, je vais réfléchir, est-ce que réellement je fais cela? Est-ce que je fais cela? Non. Qui est mon prochain? Il veut être un peu comme un chat quand on le jette de haut. Le chat ne tombe jamais dos contre terre. Hein. Toujours les pieds, les pattes contre terre. Il veut, je veux répondre. Ah, qui est mon prochain? C'est toujours moi le prof quand même. Hein. Dis-moi, Jésus qui est mon prochain. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre là? Entre les deux flèches, la flèche verticale et la flèche horizontale, cet homme, le professeur de la loi, il a le problème. Son problème, il se situe où? Au vertical ou à l'horizontal? À l'horizontal. Il dit, moi, je suis prof. Moi, je connais Dieu. Je connais la loi. Mais le prochain, je n'ai que faire. Qui est mon prochain? En d'autres termes, moi, je suis ici. Ce prochain-là qui se dénonce, qui se dit, il est où? Il est où? Qui est mon prochain? Qui dit, oui, moi. C'est ça ce qu'il veut dire. Il est où mon prochain? Et Jésus, quand il va lui répondre, il va parler maintenant d'une parabole. La parabole. Une parabole, c'est une histoire qu'on imagine, pas du mensonge, mais c'est une histoire inventée qui est dite pour éclairer une vérité et conduire à la mise en pratique. Pour les plus jeunes, il ne s'agit pas des antennes paraboliques. Hein. Donc, c'est la parabole. Et Jésus va utiliser une parabole. Dans cette parabole, est-ce que Jésus va s'occuper de la relation verticale? Non, mais il va s'occuper de la relation horizontale. Parce que le problème du professeur de la loi ne se situe pas entre lui et Dieu, mais plutôt entre lui et l'autre. Alors, Jésus commence cette parabole. Il va prendre deux personnages du type du professeur de la loi. Il s'agit du prêtre et du lévite. Mais il dit un homme partait de Jérusalem à Jéricho. Mes chers frères et sœurs, où se trouvait le temple? Le temple se trouvait à Jérusalem. Donc quelque part, il part d'un lieu saint. Là où est le trône de Dieu, entre guillemets, Dieu se trouve là, à Jérusalem. Toi, tu n'as pas de problème avec Dieu, mais Dieu se trouve là. Et cet homme part de là où Dieu se trouve, il s'en va à Jéricho. Mais chemin faisant, il tombe entre les mains des brigands. Cet homme n'est pas défini, mes frères et sœurs. C'est un homme. Ça peut être toi, moi, de n'importe quel nationalité, on ne sait pas. Mais les brigands non plus ne sont pas identifiés. On ne sait pas s'il s'agit des Roumains ou des Congolais ou des Belges ou je ne sais pas de qui. On ne sait pas. Ça peut être n'importe qui. Donc ça veut dire que cet homme qui a voyagé, ce qu'il a subi, tout le monde peut le subir. Et les brigands, il n'y a pas à mettre des étiquettes, comme on dit quand on parle des Polonais. On dit, il boit comme un Polonais. Est-ce que tout Polonais boit? Il y a aussi des Polonais qui ne boivent pas. Ce sont des étiquettes. Il ment comme un... On dit un arabe. Est-ce que tous les arabes mentent? On met des étiquettes. Il est en retard comme un Africain. Un noir. Les Noirs sont toujours en retard. Est-ce que tous les Noirs sont en retard? Aujourd'hui, moi, je suis un petit peu quand même arrivé avec une minute de retard. Non, j'étais en train de me garer ici, c'était pas possible, alors il fallait tourner un petit peu. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas de Belges qui arrivent en retard? Voilà, il y en a. Mais par ricochet, je suis Belge naturalisé, donc... Mais vous voyez ça? On met des étiquettes sur des gens. Et Jésus utilise ça pour enlever ces étiquettes-là. Les brigands peuvent être de partout. Les méchants peuvent être de partout. Il n'y a pas que eux qui sont méchants et que c'est nous qui sommes toujours des bons. Non, ça peut être inversé. Mais alors, il va identifier, outre le voyageur et les brigands, Jésus va identifier trois catégories. La première catégorie, c'est le prêtre. Un prêtre qui passait par le même chemin, par hasard. Il passe, ça veut dire, il descend d'où? Il descend de Jérusalem, où se trouve le temple, le siège de Dieu. Et il sert Dieu, un prêtre.
Un prêtre, c'est quelqu'un qu'on appelait aussi un sacrificateur. Et le sacrificateur, il est descendant... Oh là, il est quelle heure là? Mon Dieu. Il est descendant d'Aaron... d'Aaron. La descendance d'Aaron a donné la lignée des prêtres. Donc tous ces gens-là, qu'on appelle prêtres, qu'on appelle sacrificateurs, ce sont des gens qui connaissent Dieu. Et c'est dans la même loi qu'il est écrit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais le prêtre qui descend de là où il y a la sainteté, il arrive, il voit un malheureux qui a été tabassé, qui est resté à mi-mort. Et qu'est-ce qu'il trouve bon de faire? Il est écrit, il l'a vu. Il l'a vu, mais il est passé outre. Parce que Jésus veut pointer le problème de cet homme, du professeur de la loi. Toi, tu n'as pas de problème avec Dieu, mais tu as le problème avec le prochain. Et ici, ce prêtre est comme toi. Il n'a pas de problème avec Dieu. J'ai déjà loué Dieu, j'ai prié pour les offrandes, j'ai prié pour ceci et cela, j'ai parlé des péchés des hommes, moi Dieu, et j'arrive ici. Je n'ai que faire. Ma relation verticale me suffit. Un autre va passer là. C'est qui? Hein? Lévite. Et quand on dit prêtre, absolument, c'est un juif. Un juif, dit identifié, donc un serviteur de Dieu. Un Lévite, c'est aussi un serviteur de Dieu. Dans la lignée de Lévi, un des fils de Jacob, il y a aussi, c'est Aaron. Aaron, comme Moïse et Myriam, ce sont de la lignée de Lévite, de Lévi, les Lévites. Mais on a scindé pour la prêtrise, ce sera ceux qui viendront, qui naîtront d'Aaron. Et les autres restants de la lignée de Lévi seront appelés des Lévites et ce seront des aides des prêtres. Donc, quelque part, c'est la descendance des serviteurs de Dieu. Mais le Lévite aussi, il part d'où à où? Aussi de Jérusalem. À Jéricho. Il fait quoi aussi? Il a vu. Mais aussi, il a fait une virgule, il passe outre. Il s'en va. Parce qu'il n'a pas de problème avec Dieu. Pour lui, les humains, ça ne suffit, ça ne sert, c'est rien, ça. Oh! Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous arrive parfois, nous, les serviteurs de Dieu, moi le premier? Pasteur, ancien d'église, diacre, enseignant de l'école du dimanche et tout ce qui font des activités de Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive parfois? Parfois, nous avons tendance à nous mettre en relation avec Dieu en oubliant qu'il y a l'autre. Ça me suffit. Il y a des années au Congo, un missionnaire américain, il arrive et il voit mon jeune frère, il veut travailler avec mon jeune frère lui dit qu'il y a beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de misère. Et l'Américain lui dit, écoute, moi, je ne suis pas venu pour faire des œuvres humanitaires. Je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Ha. Et Jésus qui a nourri les affamés. Et Jésus qui a ressuscité des morts. Et Jésus qui a guéri des malades. Qui a délivré des possédés démoniaques, etc., etc. Oh, moi, l'homme qui est mon prochain. Alors Jésus va faire quelque chose. Mais, il commence par « mais » après avoir dit un prêtre, un lévite. Mais, un samaritain. C'est fort. Mais, et puis un samaritain. Mais, ça veut dire, nous connaissons bien cette préposition en français. Mais, ça veut dire que ça met en opposition ce qui a été dit avant, avec ce qui va suivre. Il va y avoir une différence. Et cette différence est de taille, mes frères et sœurs. Parce qu'il s'agit pas de n'importe qui, mais d'un samaritain. Qui est un samaritain? Je vais essayer d'abréger. Un samaritain, ce n'est pas un juif. À l'époque, je vais aller un peu rapidement, dans l'histoire, nous savons l'histoire du peuple d'Israël, hein, le tout premier roi du peuple d'Israël, il s'appelle Saül. Le deuxième, David, le troisième, le fils de David, Salomon. Et ces trois rois-là ont régné sur un royaume uni, uni et unique, un seul royaume du peuple d'Israël. Mais après Salomon, le royaume a été divisé en deux. Il y a eu deux rois, au nord et au sud. Beaucoup de tribus sont restées au nord. Et ils se sont accaparés la terminologie, l'appellation Israël. Au sud est resté quelque peu de tribus, dont Juda. Et on a appelé ça le royaume de Juda. Mais là, dans le royaume de Juda, c'est là où il y avait Jérusalem, donc le temple. Alors ceux du nord, la grande ville du nord, c'était Samarie, la ville de Samarie. Alors les péchés du peuple du nord ont tellement été abondants que Dieu les a mis en déportation avant ceux du sud. Et le roi d'Assyrie qui a déporté, je ne sais pas si vous me suivez encore là, qui a déporté le royaume du nord, a implanté un autre peuple à la place de ceux qu'il a enlevés du nord, Israël, Samarie. Et ce peuple païen, étant arrivé à Samarie, ils se sont donné le nom de Samaritains. De Samaritains. 70 ans après la déportation, le roi Cyrus a dit, allez, vous pouvez retourner chez vous, etc. Et quand les gens retournent chez eux, les survivants, ils trouvent que leur maison, leur champ et tout ça sont déjà pris par les nouveaux venus, les Samaritains. Mais avant cela, quand les nouveaux venus sont arrivés à Jérusalem, à Samarie, ils mouraient comme des mouches, comme on dit. Et ils se sont dit, mais oulala, cette épidémie, peut-être les dieux d'ici ne sont pas contents, nous ne savons pas comment les adorer. Et ils ont envoyé un messager auprès du roi d'Assyrie. Si tu veux bien nous envoyer un ou deux prêtres qui nous montrent comment ils adorent le Dieu d'ici. Et c'est ainsi qu'on leur envoie un prêtre avec une copie de la Torah. Et ces gens-là ont appris comment adorer le Dieu unique et l'épidémie a pris fin. Donc ils avaient déjà ils savaient déjà adorer le Dieu unique, et ils avaient la Torah. Mais donc les autres, ils reviennent chez eux, ils trouvent que les Samaritains ont tout pris. Et les Samaritains refusent de céder les biens aux propriétaires de jadis. C'est ça qui a fait une guerre entre les peuples, les deux peuples, Israël et les Samaritains. Et au deuxième siècle d'ailleurs, avant Jésus-Christ, la guerre des Maccabées, c'était épouvantable. Au point où on a décrété que tout ustensile, toute chose que touche un Samaritain, est devenu impur. Si toi, Israélite, tu touches ça, tu deviens automatiquement impur. Et si tu vois un Samaritain venir de là, toi, tu dois changer de trottoir. Parce que si tu le touches, tu vas sur le même trottoir, tu deviens impur. Et c'est donc pas pour rien que dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus, au puits, il va demander à la femme, « Samaritaine, donne-moi à boire. » La femme va lui dire, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine ?» Parce qu'il y avait une dispute entre les Samaritains et les Juifs. Donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et Jésus fait exprès. Mais un Samaritain, celui que vous mettez de côté, celui-là qui est le paria, l'infréquentable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme d'abord, il a aussi vu, comme le prêtre, comme le lévite, il a vu. Mais à la différence, lui, il a été ému de compassion. Ça veut dire que ni le lévite, ni le prêtre, aucun n'a été ému de compassion. Comment voulons-nous parler de l'amour pour l'autre s'il n'y a pas d'abord la compassion? Et Jésus est occupé à rectifier les choses dans le chef de ce professeur de la loi. Cet homme l'ayant vu, celui que vous méprisez, l'ayant vu, qu'est-ce qu'il fait? Il va, c'est lui qui a fait du bien. Il le voit, il est ému de compassion et il descend de sa monture, il prend ce qu'il avait pour soigner les bobos, les plaies. Il avait de l'alcool, du vin et il se met à soigner. Et il fait une substitution. Au lieu que lui, il continue à utiliser sa monture, nous comprenons ce que c'est qu'une monture. Hein? Oui. Voilà. Son âne.
Au lieu que ce soit lui qui soit au-dessus, il a pris le malheureux, il le met au-dessus. N'est-ce pas là un principe de substitution, de remplacement? Moi, je marche, toi, tu montes. Il va avec lui jusqu'à l'auberge. Et je veux vous dire quelque chose, mes frères, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. L'auberge à l'époque, une auberge à l'époque, c'est ce qui va devenir des hôtels aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup dans la cité. Il y en avait quand même, même quand Jésus est né, il n'y avait plus de place dans des auberges. Il y en avait aussi quelques-unes dans la cité, mais souvent, c'était entre des chemins longs pour que des voyageurs nocturnes puissent avoir quelque part où ils vont s'arrêter et s'abriter. Mais aussi, c'était les postes de première aide, de premier secours, first aid. Il y avait aussi un traitement dans les auberges. Donc, c'est pas pour rien que le Samaritain s'est arrêté à l'auberge et a laissé le malade, le malheureux à l'auberge, en l'ayant soigné, en ayant demandé à l'aubergiste de prendre soin de cet homme-là. Et il dit, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai, je te payerai. Mes frères et sœurs, maintenant, la rectification majeure va arriver ici. Jésus va poser la question. Revenons à la question du professeur. C'était quoi? Qui est mon prochain? Et Jésus va lui poser une question. Qui de ces trois? C'est-à-dire du prêtre, du lévite et du samaritain. Te semble avoir été le prochain du malheureux. Ah! Jésus rectifie. Ça veut dire, tu as posé la question, qui est mon prochain? Tu as mal posé ta question. Tu aurais dû demander, de qui suis-je le prochain? De qui suis-je le prochain? Et c'est là notre problème. Parce qu'on attend que le prochain se dénonce là où il est. Je cherche le prochain! Voilà! Non, Jésus dit, non, ça, c'est pas ça. C'est toi qui vas aller vers les malheureux, qui vas te faire le prochain des malheureux. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a un lien avec Noël. Jésus a laissé le ciel, il est venu se faire comme l'un de nous, devenir notre prochain. C'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle est venue camper parmi nous. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Père. Jésus a laissé tout ça. Il vient vers nous. Et Jésus se compare avec ce malheureux-là. Non, ce Samaritain. Un homme qui a été banni. Et Jésus n'a-t-il pas été banni? Jésus se compare à ce Samaritain qui est venu se faire le prochain des malheureux. Jésus a été banni, il a été mis à mort en dehors de la ville parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a eu la substitution, comme ce Samaritain laisse le malheureux, le met sur la monture. Jésus a pris notre place. Il est venu naître pour être notre prochain, tout en sachant qu'il sera haï, comme est haï le Samaritain, parce qu'il veut être notre prochain. Et il a été notre prochain. Il corrige la mentalité. Il corrige la mentalité. Et alors, qu'est-ce que le professeur va répondre encore? De qui de ces trois, lequel te semble avoir été le prochain du malheureux? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est celui qui a usé de bienveillance, de bonté envers le malheureux. Ah! Et qu'est-ce que Jésus dit encore? Et toi, va faire de même. Comme il lui a dit au début, la pratique. Jésus qui est venu vers nous, il se compare avec ce Samaritain qui est venu vers le malheureux. Mes chers frères et sœurs, comment attendre que les malheureux s'annoncent vers nous alors qu'ils sont à mi-mort, à demi-mort? Ils ne peuvent plus parler. Il faut que ce soit nous qui fassions le pas vers eux. Et Jésus a fait le pas vers nous. Parfois, nous sommes comme des gens qui demandent, qui nous plaignons des prisonniers qui ne viennent pas nous rendre visite.
Mais comment est-ce qu'un prisonnier qui est détenu va-t-il sortir de sa cellule pour qu'il vienne nous rendre visite? C'est à nous d'aller vers eux. Il y a beaucoup de malheureux. Nous sommes en période de froid. Comment est-ce que nous attendons? Est-ce que c'est à nous? Nous disons oui, nos portes sont grandes ouvertes. Les malheureux peuvent venir. Mais Jésus attend que ce soit nous qui fassions le premier pas vers les malheureux. Que ce soit des SDF, que ce soit d'autres et d'autres et d'autres. C'est à nous faire leur prochain parce qu'ils corrigent ça. Moi, je suis venu vers vous. Je suis votre prochain. Et terminons par ceci, mes frères et sœurs. Deux choses. Si on comprend bien, aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ta pensée, qui nous conduit vers notre relation avec Dieu, et aime ton prochain comme toi-même. Qui est notre prochain? Qui est notre prochain? C'est Jésus. C'est Jésus notre prochain. Parce qu'il est venu vers nous. C'est nous qui étions en malheur. Il est venu vers nous. Nous sommes comme le malheureux voyageur. Et Jésus est venu vers nous. Il nous a repérés, il nous a vus comme le Samaritain a vu. C'est-à-dire que le prochain du malheureux, c'est le Samaritain. Oui, tu as bien répondu, va faire de même. C'est le Samaritain qui est le prochain du malheureux. Et Jésus, c'est notre prochain. Ça veut dire qu'aimer Dieu de tout notre cœur et aimer le prochain, c'est aimer Jésus. Aimer Dieu est celui qui l'a envoyé, son Fils. Et voilà, nous avons la vie éternelle. Nous avons hérité de la vie éternelle. Et Jésus veut que nous soyons à notre tour comme lui. Et si nous comprenons ça, nous pouvons dire, si les Juifs avaient compris ça, que dans le désert, Moïse, c'était leur prochain, qui a été envoyé par Dieu pour se faire leur prochain, venir vers eux pour les aider, il ne leur aurait pas causé tout tant de misère. Et si nous comprenons que c'est ce Jésus-là qui se compare au Samaritain, c'est notre prochain, l'Église ne fera pas de misère à Christ, parce que nous aurons l'attitude du malheureux. Parce que toute l'histoire n'est pas dite là, mais nous pouvons imaginer, cet homme, quand il est guéri, quand il est rétabli, il va avoir quelle attitude par rapport à ce Samaritain? Une attitude de reconnaissance. Parce que le Samaritain l'a aimé en premier, sans condition. Il n'a pas demandé, tu viens d'où, tu es qui, toi? Tu es de quelle nationalité, toi? Non, il a aidé tel qu'il était. Donc, dans la grâce. Et Jésus est venu vers nous sans poser toutes ces questions. Il nous aime tel que nous sommes. Notre attitude sera en retour une attitude de remerciement à Dieu qui nous a aimés le premier, en Jésus-Christ. Et alors, la deuxième chose qui termine mon message, mes frères et sœurs, excusez-moi parce que l'heure est quand même dépassée. Il va déposer, le Samaritain va déposer l'homme à l'auberge. L'auberge, mes frères et sœurs, c'est comme l'église. C'est comme l'église. Jésus sauve des malheureux. Il les confie à des églises afin que les églises puissent s'occuper de ces malades-là. Pour qu'à leur tour, ils rendent gloire à Jésus. Et en plus, Jésus dit à mon retour, je vais donner des récompenses. Quand Jésus va revenir, mes frères, mes sœurs, nous aurons une récompense. Parce que nous avons été des prochains, des malheureux. Qu'en est-il de nous? Ce Christ qui est venu nous donner cet exemple. Qu'en faisons-nous? Quelle est l'attitude de moi, de toi, de nous tous, de l'Église? Est-ce que nous sommes les prochains des autres? Est-ce que nous amenons ces gens à l'Église pour que l'Église s'occupe de ces gens, de les soigner, leur accorde, les aide à grandir dans la foi pour qu'un jour, au retour du Christ, il soit aussi avec nous et que Jésus dise de nous, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu et voici, je te donne beaucoup plus de responsabilités. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé Jésus-Christ comme notre prochain. Il s'est fait notre prochain. Il vient nous aider à te connaître à travers lui. Et c'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie, comme nous l'avons chanté. Aide-nous, Seigneur, à vivre en conséquence ton évangile. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur, mais aussi à aimer le prochain, le Christ que tu as envoyé, et à faire sa volonté. Nous prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas été là ce matin. Tu connais les raisons de l'empêchement de chacun. Peut-être qu'il y a des malades et d'autres qui passent par des situations difficiles ou d'autres qui sont en découragement. Étends ta main sur chacun, Seigneur. Et nous voudrions être en communion avec eux aussi, te louant, en disant merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à t'aimer de tout notre cœur et à aimer ton Fils. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être le prolongement du Christ dans ce monde, lui qui nous a donné l'exemple d'être prochain. Aide-nous à être les prochains de ceux qui sont malheureux. Aide chacun de nous à titre personnel, mais aussi aide ton Église comme une entité. Aide-nous, Seigneur, à être le prochain des malheureux, mais aussi à prendre soin des malheureux. Dieu de grâce, daigne toi-même multiplier cet enseignement dans nos cœurs et donner des assises à ton enseignement dans nos cœurs et aide-nous à mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as appris. Au nom de Jésus. Amen.